Bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'extrême droite balayée en Autriche. Tous ses ministres au sein de la coalition gouvernementale ont démissionné hier après des soupçons de corruption avec la Russie. À 5 jours des européennes, chaque responsable de l'Union s'en sert comme argument de campagne, vous l'entendrez.
Nous donnerons ensuite la parole aux avocats de la famille de Vincent Lambert. Contre toute attente, la Cour d'appel de Paris a ordonné hier soir la reprise des traitements pour le patient. Les parents sont satisfaits, mais son neveu parle de sadisme pur de la part du système médico-judiciaire.
Huawei dit être en discussion avec Google pour répondre à l'interdiction américaine. Washington hier a donné 3 mois aux géants chinois des télécoms pour arrêter de commercialiser avec les États-Unis, de commercer avec les États-Unis. C'est un délai plus important que prévu.
Et puis à quoi joue Cristina Kirchner, l'ancienne présidente de l'Argentine accusée de corruption? Elle ne présente pas directement à la présidentielle sa candidature, mais elle brigue le poste de vice-présidente.
Après ce journal, Frédéric Seitz reviendra dans son billet politique sur les trophées de l'UNFP, c'est du football, ou comment le joueur Kylian Mbappé pourrait être le meilleur homme politique de France. L'extrême droite quitte donc le gouvernement en Autriche après 1 an et demi passé au pouvoir. Ces départs en série font suite au scandale lié à une possible corruption avec la Russie. Le vice-chancelier autrichien Heinz Christian Strache avait déjà démissionné ce week-end après la diffusion d'une vidéo le montrant prêt à se compromettre. Bonjour Isorias.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Vienne. Tous les ministres d'extrême droite en Autriche ont donc suivi, ont démissionné hier. Ils n'ont en fait pas accepté le limogeage de leur collègue au ministère de l'Intérieur, Herbert Kickl, un membre important du FPÖ.
Oui, le cas de ce membre influent du FPÖ a été au cœur des discussions. Sébastien Kurz souhaitait son départ car dans la vidéo qui a fait scandale, Heinz Christian Strache, le vice-chancelier démissionnaire, parle d'un financement caché du FPÖ. Or, au moment où la vidéo a été tournée en juillet 2017, Herbert Kickl était secrétaire général du parti. S'il y a une enquête, son départ est donc nécessaire pour qu'elle se fasse en toute indépendance, selon le chancelier. Herbert Kickl ne peut pas enquêter contre lui-même, a-t-il expliqué. Mais le FPÖ avait prévenu qu'il n'accepterait pas le départ forcé de ce dernier. Tous les ministres du parti ont donc démissionné. Pour les remplacer, Sébastien Kurz veut nommer des experts au poste laissé vacant.
Et la coalition, pour le moment, vole donc en éclats. Elle pourrait mettre le gouvernement sur la sellette. À 5 jours des élections européennes, cette affaire, Isorias, fait réagir les responsables européens.
Oui, certains d'entre eux en ont profité pour mettre en garde contre le vote pour l'extrême droite lors de ces élections européennes. La chancelière allemande Angela Merkel a ainsi appelé à résister aux politiques qui sont à vendre. Une référence directe à la vidéo qui fait tant scandale en Autriche. Pour le chef de file des conservateurs Manfred Weber, il ne faut donner à ces radicaux aucune influence sur notre Europe. Du côté des nationalistes, on espère limiter les conséquences du scandale. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, un parti allié du FPÖ, a pris ses distances hier avec Heinz Christian Strache, qualifiant de faute lourde l'attitude de ce dernier. Le FPÖ tente, lui, de limiter les dégâts. Un premier sondage publié hier montrait que 18% des Autrichiens se disent prêts à voter pour le FPÖ. C'est 5 points de moins qu'avant le scandale, mais c'est loin d'être un score calamiteux.
Merci Isorias depuis Vienne ce matin pour France Culture. Lui s'en prend plus largement au parti nationaliste en Europe. Nouvel exercice de communication ce matin pour Emmanuel Macron. Il a choisi la presse quotidienne régionale pour mobiliser les Français lors du scrutin prévu ce dimanche. Un entretien diffusé donc entre autres dans la Dépêche du Midi ou les dernières nouvelles d'Alsace, les DNA ce matin. La Voix du Nord en revanche a refusé d'y prendre part. Son directeur général Gabriel Darcourt s'en explique.
On veille, nous, à avoir un équilibre entre les principales listes. Voilà, on a estimé que l'interview du président de la République à 5 jours de cette échéance modifierait quelque peu cet équilibre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est sur le format de cette interview. Je crois, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a compris, qu'il y avait une relecture de l'Élysée. À partir du moment où nous, on a une position assez claire qu'on a prise il y a quelques mois sur les relectures d'interviews d'hommes politiques que l'on refuse désormais. On a estimé qu'il n'y avait pas de raison qu'on fasse une exception. On ne pouvait pas déroger à la règle qu'on s'était fixée.
Alors les 9 journalistes qui étaient présents hier soir lors de l'entretien ont tenu à préciser que l'Élysée n'avait rien changé au fond des articles. Le président de la République s'y montre combatif, mais il est clair, Stéphane Robert, qu'il est inquiet des résultats de dimanche.
Les élections européennes revêtent une importance essentielle pour Emmanuel Macron. Il en parle, il les prépare, il élabore des stratégies depuis des mois. Plusieurs députés de La République En Marche font même état de discussion avec les conseillers du chef de l'État depuis 1 an et demi, pratiquement donc depuis qu'il a été élu président de la République. C'est dire si l'enjeu est crucial. Et ce qui se joue là, c'est la capacité d'action du chef de l'État au lendemain du scrutin. Capacité d'action au niveau national d'abord. Si la liste de la majorité arrive en tête, ce sera le signe qu'il aura surmonté la crise des Gilets jaunes, qu'il aura encore une fois réussi à contenir la montée du Rassemblement national comme en 2017. Il en sortira relégitimé et il pourra reprendre sa marche en avant, ainsi que le train de réforme lancé au cours des 2 premières années. En revanche, si En Marche arrive en 2e position, ce sera le signe qu'Emmanuel Macron est fragilisé dans l'opinion, ce qui amoindrira nécessairement sa capacité à poursuivre les réformes entamées. Et puis, le 2e enjeu, tout aussi important, c'est la capacité d'Emmanuel Macron à peser à l'échelle de l'Europe. S'il arrive en tête, il apparaîtra encore une fois comme le champion du camp pro-européen, comme celui qui réussit à contenir le populisme et les nationalismes qui progressent partout ailleurs. Autrement dit, il se retrouvera en position de force pour convaincre ses homologues européens de lui emboîter le pas dans sa volonté de faire avancer l'Union. En revanche, s'il est battu, il se retrouvera plus isolé que jamais et ses discours d'Athènes et de la Sorbonne, salués il y a 1 an et demi, feront figure de belles paroles qu'il n'aura pas réussi à concrétiser.
Stéphane Robert pour cette analyse matinale. Nous en venons maintenant à cette annonce surprise de la soirée. Nous en faisons écho d'ailleurs dans les matins de France Culture ce mardi. La Cour d'appel de Paris a ordonné hier soir la reprise des traitements pour maintenir en vie Vincent Lambert, ce patient tétraplégique en état végétatif depuis 10 ans. L'hôpital de Reims avait hier matin entrepris de suspendre l'alimentation et l'hydratation artificielle après avoir reçu l'aval du Conseil d'État. Ordre donc provisoire de la Cour d'appel qui souhaite que le Comité international de l'ONU pour les droits des personnes handicapées puisse se pencher sur le fond de l'affaire. C'est une première victoire pour l'un des avocats des parents de Vincent Lambert, maître Jean Payot.
C'est en réalité la victoire du droit, parce que nous disons depuis 15 jours, 3 semaines, que réellement c'est une obligation qu'a la France en vertu de sa signature et de sa ratification de la Convention internationale. Donc bien sûr, ce sont des textes qui s'appliquent en droit français et le docteur Sanchez aurait dû appliquer cette disposition s'il avait été correctement informé par le ministère de la Santé.
Ce matin, les avocats doivent se rendre sur place à l'hôpital de Reims pour constater la reprise des traitements. Face à eux, le neveu de Vincent Lambert, lui, se dit consterné par ce rebondissement. Son avocat, maître Gérard Chemla.
On a le sentiment que finalement, nous ne sommes plus dans un problème de droit, mais qu'on est dans un problème de conviction des magistrats. L'impression que ça donne, c'est que les parents Lambert ont trouvé des juges qui partagent leurs opinions éthiques et qu'on est sorti du domaine juridique. Quand on fait dire à une loi ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'on trahit la loi. Et quand un juge trahit la loi, il ne le fait que pour être en adéquation avec des idées qui sont ses idées et qui ne sont pas l'application de la loi ni le prononcé de la justice.
Affaire Vincent Lambert, le débat impossible. Nous y revenons dans une dizaine de minutes sur France Culture avec nos invités. Avant cela, la suite de l'information du jour et ce vote de l'Assemblée nationale hier soir pour les ruptures conventionnelles dans la fonction publique sur le modèle du secteur privé. L'expérimentation pourrait durer 5 ans à compter du 1er janvier prochain. La rupture conventionnelle induit une prime de départ et une allocation de retour à l'emploi. En bref, encore ces 8 syndicats de l'assistance publique hôpitaux de Paris qui ont déposé un préavis de grève à partir de jeudi soir, c'est-à-dire après-demain et jusqu'à samedi matin. Ils réclament, comme en avril dernier, de véritables négociations sur l'emploi, les salaires et les restructurations en cours.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Washington lève les restrictions imposées aux géants chinois des télécoms Huawei.
Oui, finalement, les entreprises américaines pourront commercer avec Huawei pendant 3 mois. Voici le délai accordé par la Maison Blanche. Elle assouplit ainsi sa position car ce n'est pas ce qui avait été dit par le président américain Gregory Phillips.
Au nom de la sécurité nationale, Donald Trump signait mercredi ce décret interdisant aux entreprises américaines de vendre leurs produits technologiques à Huawei. Mais 5 jours plus tard, le secrétaire au commerce, Wilbur Ross, tente visiblement de calmer le jeu et annonce un délai de 3 mois avant la mise en place de ces sanctions. Cela signifie que dans les 90 jours qui viennent, Google, par exemple, pourra continuer à vendre à Huawei son système Android ou ses applications, mais pas au-delà. Pour Washington, le numéro 2 mondial des smartphones est beaucoup trop proche du pouvoir de Pékin et soupçonné d'espionnage, mais le bras de fer va en vérité bien au-delà du dossier Huawei, puisqu'Américains et Chinois n'ont toujours pas trouvé d'issue au conflit commercial qui les oppose depuis 10 mois, à coups de menaces et de sanctions à plusieurs milliards de dollars.
Précisons que Huawei annonce ce matin être en discussion avec Google pour tenter de renouer des liens pérennes. Le géant chinois prévient toutefois les Américains en disant « Ne nous sous-estimez pas », voilà ce que dit le fondateur de Huawei. Partons maintenant en Argentine, où l'ancienne présidente Cristina Kirchner a indiqué qu'elle ne se présenterait pas pour le poste de présidente aux prochaines élections, mais à celui de vice-présidente. Il n'y aura donc pas de duel attendu entre Mauricio Macri et Cristina Kirchner. Après cette annonce surprise, Cristina Kirchner est attendue aujourd'hui au tribunal pour le début de son premier procès pour corruption. Elle sera donc au centre de tous les regards, Caroline Vic.
Oui, Cristina Kirchner est en effet très attendue au tribunal oral de Buenos Aires, d'abord par ses partisans bien sûr, mais aussi par le gouvernement, plaignant dans ce procès et particulièrement déconcerté par l'annonce de sa candidature à la vice-présidence. En tout, 13 personnes sont accusées de détournement de fonds publics à travers l'attribution de travaux d'infrastructures routières, une association illicite qui aurait été dirigée par Cristina Kirchner. Problème, les expertises sont toujours en cours et aucune preuve n'a été apportée. La Cour suprême a même mis en garde les juges, estimant que cette première audience précipitée n'avait aucune rationalité juridique, craignant que ce procès soit utilisé politiquement. Une opinion partagée par Alberto Fernandez, candidat à la présidence aux côtés de Cristina Kirchner, dans une interview publiée sur les réseaux sociaux.
Pour moi, la justice doit bien fonctionner, pour les amis, mais aussi pour les ennemis. Elle doit juste bien fonctionner. Ce n'est ni une persécution, ni une menace. Tous les fonctionnaires publics, nous devons être responsables de nos actes. Et les juges doivent être responsables de leurs décisions. Et puis il faut aussi savoir lire les avertissements de la Cour suprême. La Cour a simplement publié cette résolution pour traiter un recours. On peut mentir aux gens, parce que le code de procédure pénale, seuls les avocats le connaissent, mais on ne peut pas mentir à la loi.
Si le procès n'est pas annulé ou interrompu par la Cour suprême, il devrait durer jusqu'en mai 2020, date à laquelle Cristina Kirchner pourrait être vice-présidente.
Caroline Vic à Buenos Aires pour France Culture. France Culture qui a toujours les yeux et les oreilles rivées sur le Festival de Cannes grâce à notre envoyé spécial et notre spécialiste cinéma, Antoine Guillot. Bonjour.
Bonjour Clara.
Antoine, hier, vous avez pu apprécier la variété du Festival de Cannes avec la projection de 2 films très dissemblables.
Oui, on ne pourra pas faire grief au Festival de Cannes de proposer en compétition des œuvres extrêmement variées, rien de plus différent donc que les 2 films proposés au mi-temps de la course à la Palme d'Or, si ce n'est peut-être un certain rapport au mystère et à la mort. Mon premier est signé d'un Américain, Ira Sachs, qui avec Frankie s'est délocalisé dans la très élégante ville de Sintra au Portugal pour rassembler autour du personnage éponyme une star de cinéma incarnée avec toujours autant de talent par Isabelle Huppert, une pléiade de proches censée l'accompagner dans ce qu'on comprendra très vite comme les derniers mois de sa vie. Un film qui se voudrait donc élégiaque mais qui n'est que charmant, ce qui est déjà pas mal. Beaucoup plus âpre, évidemment, le nouveau film des frères Dardenne qui appliquent leur méthode bien connue pour s'affronter à un des grands mystères contemporains. Pourquoi des jeunes gens se radicalisent-ils et surtout comment les en sortir? 20 ans après leur première Palme d'Or en 1999, Rosetta s'appelle Ahmed. Il a 13 ans, le corps un peu gauche, mais le regard perçant. En d'autres temps, son malaise social, familial et pour tout dire existentiel en aurait fait un révolutionnaire ou un punk. Aujourd'hui, fanatisé par un imam de quartier intégriste, il transmute ses idéaux de pureté et son énergie bouillonnante en projet de meurtre, alors qu'autour de lui, famille, éducateur et jusqu'à une jeune fille, pas insensible à son charme malhabile, vont tenter de le tirer vers la vie, de le délivrer de ce qui le possède. C'est un itinéraire moral, comme toujours, que filment les frères Dardenne, sans apporter de réponse toute faite, mais en suivant à la trace, à juste distance, ce qui reste la figure la plus démonisée de notre temps. Leur cinéma n'est pas là pour justifier ni condamner. Le jeune Ahmed nous interroge et on en a bien besoin.
Merci.
Merci beaucoup Antoine Guillot. Votre programme du jour, notamment le nouveau Tarantino qui est projeté ce mardi à Cannes. Et nous vous retrouvons demain. Il aimait la vitesse chère à Quentin Tarantino dans certains de ses films. Nous avons appris cette nuit la mort de Niki Lauda, triple champion du monde de Formule 1 autrichien. Légende des circuits dans les années 70 et 80, Niki Lauda avait 70 ans. Une légère accalmie est prévue ce mardi avec un temps encore bien nuageux en France, mais moins d'averses. Quelques pluies ne tomberont que cet après-midi de la Picardie jusqu'à l'Auvergne. Ce matin, Météo France prévoit 14 degrés à Besançon, 16 à Lille, Nantes et Bordeaux, 17 degrés à Paris, 18 à Lyon et 20 degrés à Marseille.
Merci Clara Lecoq-Réal.